et de l'année, bien sûr, Julien Odoul, porte-parole du Rassemblement National. Monsieur Odoul, la question de confiance, bonjour. Est-ce que vous vous êtes promené dans Paris ce matin en mettant votre masque ?
Je respecte la loi, donc je respecterai évidemment le port du masque obligatoire, pas seulement à Paris d'ailleurs, hein, parce que vous avez des petites communes de ma région, je vois dans le département de la Haute-Saône, voilà, où le masque est obligatoire, ce qui est totalement aberrant d'un point de vue sanitaire, puisqu'on sait pertinemment que les contaminations ne se font pas à l'extérieur, mais on va devoir subir encore quelques semaines, malheureusement, ces directives et ces injonctions sanitaires.
Alors, que pensez-vous de toutes ces dernières directives ? C'est-à-dire, à partir de lundi, on va avoir différentes jauges, on n'aura plus le droit d'être debout au comptoir, le masque sera toujours obligatoire à Paris et dans bon nombre de communes. Ça va être le débat sur le pass vaccinal qui va commencer, et normalement il entrera en fonction le 15 janvier, ce sera le débat au Parlement. Que pensez-vous de ces dernières directives alors ?
C'est le voyage en République d'Absurdistan qui se poursuit finalement. Ça n'a jamais cessé depuis le début de la crise. Alors autant il y a deux ans, on pouvait comprendre que l'exécutif était un petit peu attentiste, qu'il tâtonnait, autant maintenant, je veux dire, on a un petit peu d'antériorité. Ces mesures du masque à l'extérieur, ces mesures où on n'a pas le droit de boire dans les transports, d'ailleurs je vois qu'il y a des dérogations pour savoir si on peut boire dans les trains de nuit, enfin, ce qui est totalement dingue. Voilà, on est en 2021, on discute de savoir si on peut manger du pop-corn dans les cinémas ou si on peut boire dans les trains. Voilà, ce qui est assez dingue. Mais on voit bien que le gouvernement est totalement incapable, si ce n'est d'enfermer les Français, si ce n'est de vouloir finalement restreindre leur liberté individuelle et collective, et aussi de fracturer la société entre deux catégories de Français, les non-vaccinés et les vaccinés, ce qui est totalement, encore une fois, grave d'un point de vue social et démocratique. Et
oui, pourtant, aujourd'hui, face à l'arrivée d'Omicron, à la flambée d'Omicron, face au variant Delta qui est toujours là, on dit oui, ces restrictions, il faut les prendre pour contrer la vague, le raz-de-marée. Hein, c'est l'expression qui a été employée, Olivier Véran a employé l'expression de raz-de-marée, et à l'OMS, c'est tsunami qui a été. Voilà, si on veut arriver à se protéger, Julien Odoul.
Mais aujourd'hui, qui finalement participe de la propagation d'Omicron ? Ce sont les 92% de Français qui sont vaccinés. Parce qu'encore une fois, le vaccin n'est pas une protection collective, c'est une protection individuelle.
Y compris les non-vaccinés, alors c'est tous les Français qui le font circuler.
Oui, mais c'est majoritairement aujourd'hui ceux qui sont vaccinés qui transmettent le virus. Voilà, et aujourd'hui, le vaccin oui, bah bien sûr, je ne joue pas, je regarde la réalité. Il y a un nombre de contaminations qui n'a jamais été aussi haut. Oui. Voilà, on est à plus de 200 000. On a une population qui a 90% de Français éligibles, les vaccinés. Donc, ce sont bien les Français majoritairement vaccinés qui transmettent aujourd'hui.
Ce sont les
le
Français.
Virus.
Il y en a 90%. Voilà.
Oui, mais transmettre le virus. Donc le pass vaccinal, le pass sanitaire ne sert à rien pour limiter les contaminations.
Non, mais le problème est quand on aspire à diriger le pays comme votre candidate, hein, Marine Le Pen, on doit parler de tous les chiffres et ne pas retourner la réalité. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas simplement le nombre de contaminations, mais le nombre de personnes qui se retrouvent à l'hôpital et en réanimation. Et vous savez très bien, et tous les chiffres le disent, que 70 voire plus % des gens qui se retrouvent en réanimation sont
faux,
des non-vaccinés.
Mais c'est faux, les chiffres officiels, je sais pas si vous les avez regardés.
Ben oui, je les regarde.
Les chiffres officiels de l'adresse. L'adresse, c'est quoi ? C'est pas une officine d'extrême droite, c'est pas la cellule du Rassemblement National. L'adresse, c'est une officine qui dépend du ministère de la Santé. C'est la direction de la recherche, de l'évaluation, des études et des statistiques. Cette étude montre que du 8 novembre au 5 décembre, dans les Français qui sont en soins intensifs, vous avez 48% de Français vaccinés. 48%.
Oui, parce qu'il y a
90%. Et pire, du 1er au 5 décembre, concernant la mortalité, et je suis malheureux de devoir citer des chiffres, parce que quand on parle de mortalité, ce sont des drames, c'est 60% de Français vaccinés. Montre bien que le vaccin n'est pas la panacée, que c'est une protection individuelle fort utile pour les cas graves, pour les personnes à risque, mais que c'est pas la panacée pour éviter.
Donc vous dites, on nous a survendu ce vaccin, quoi, en fait, c'est
mais
ça?
Mais bien sûr, le gouvernement a fait du vaccin la panacée et l'arme absolue, négligeant toutes les autres mesures.
Qui étaient lesquelles ?
Le traitement. Investir massivement sur le traitement. Et visiblement, là, nous avons une biotech nantaise qui s'appelle Xenotera, qui a sorti un traitement qui s'appelle le XAV-19 et qui attend les autorisations et le soutien du gouvernement. Et c'est vrai qu'on constate que le gouvernement a mis le paquet sur le vaccin, a négligé le traitement. Pareil pour l'hôpital public, parce que la crise que nous vivons n'est pas une crise sanitaire. C'est d'abord une crise de l'hôpital public. 5 700 lits, je le répète, qui ont été supprimés depuis le début de la crise sanitaire, qui aujourd'hui font défaut à nos hôpitaux, font défaut à nos soignants. Pareil pour les 15 000 soignants qui ont été suspendus de manière scandaleuse. Aujourd'hui, rendez-vous compte, on va faire travailler des soignants vaccinés mais porteurs du virus, alors qu'on interdit à d'autres qui ne sont pas vaccinés mais pas porteurs du virus de travailler. C'est totalement fou.
Alors, vous parlez de d'autres méthodes, que le vaccin n'est pas la panacée. Il y a un truc tout bête, par exemple. Vous allez organiser des meetings. On a eu, par exemple, Marine Le Pen, tout à fait d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui annonçait qu'il n'y aurait pas de jauge. De jauge, pas de contrôle du pass sanitaire.
Non, elle n'a pas annoncé. Elle n'a pas du tout annoncé. C'est décidé lundi.
Lundi, vous adapterez votre campagne électorale.
Lundi, on va décider et trancher sur la poursuite de la campagne en termes de réunions publiques et de meetings.
Voilà, mais les premiers tweets, vous rejoignez les premiers tweets de Marine Le Pen, il me semble,
Il n'y a aucun tweet de Marine Le Pen sur les jauges.
Les deux extrêmes, vous êtes... Donc, d'ores et déjà, vous, par exemple, puisque vous pensez que le vaccin n'est pas la panacée, vous pensez qu'il vaut mieux mettre des jauges dans les meetings politiques, notamment du Rassemblement National ?
Non, mais...
Répondez à la question.
Je ne vais pas répondre à la place de ma candidate. C'est Marine Le Pen qui décidera lundi, après avoir consulté donc les membres du bureau de campagne. Moi, ce que je pense, c'est que la campagne présidentielle est essentielle pour notre démocratie.
On est d'accord.
Dans 3 mois, je le répète, on a le premier tour de l'élection présidentielle. Personne n'en parle.
Le 10 avril, c'est en 100 jours.
Personne n'en parle. On a l'impression que c'est lointain et c'est pas dans les préoccupations des Français qui sont aujourd'hui absorbés d'une part par la crise sanitaire et d'autre part, il faut bien dire, par la crise économique. Parce qu'on a des Français qui sont fracassés, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et 12 millions qui ont du mal à se chauffer. Il faut le rappeler, c'est le bilan de M. Macron. Mais cette campagne, il faut qu'elle ait lieu. Il faut que le débat, les projets, les candidats puissent, encore une fois, faire campagne avec des réunions publiques, effectivement, avec tout le, je dirais, le corpus
pourquoi
démocratique.
Vous sous-entendez qu'on essaiera d'empêcher cette campagne de se faire ?
Moi, ce que je constate, clairement, c'est que le pouvoir a intérêt à ce que cette campagne n'ait pas lieu, à ce que M. Macron ne soit pas jugé sur son bilan. Et quand on parle de passe vaccinal, quand on parle d'absurdistan, comme le masque à l'extérieur, comme la position assise, comme des choses comme ça, on ne parle pas des sujets de fond et des préoccupations des Français, que sont le pouvoir d'achat, l'insécurité
et l'immigration. Le président instrumentalise la crise pour masquer son bilan et les propositions des candidats.
Je le pense, oui, je le pense que le président a tout intérêt à faire durer la crise, à être candidat le plus tard possible et à ce qu'on ne parle pas de son bilan.
Et 200 000 contaminations par jour, c'est pas le président.
Mais c'est pas 200 000 malades. C'est pas 200 000 malades.
Grâce à l'immunité collective.
Excusez-moi, mais le variant Omicron, si on en croit les chiffres et le retour d'expérience de l'Afrique du Sud, de la Grande-Bretagne, est très contagieux, certes, mais est très peu dangereux. La plupart du temps,
Parce que les gens sont vaccinés.
Pas forcément.
Marianne Soubré.
Ça fait en fait 2 ans qu'on vit tous, effectivement, hein, comme vous, enfin toute la France, on vit tous avec ce virus. Beaucoup de choses ont été inventées en fait pour arriver à avoir une vie à peu près normale. Est-ce qu'on peut pas inventer, puisque vous parlez des meetings politiques, est-ce qu'on pourrait pas prendre exemple, par exemple, sur tous les cours qui ont été donnés en distanciel, est-ce qu'on peut pas inventer une campagne électorale en distanciel compte tenu de cette épidémie ? Est-ce qu'on peut pas aller vers ça similaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous êtes innovant, pourquoi vous le feriez
Julien
pas
Doul.
Alors, moi, je veux bien qu'on brime la démocratie, je veux bien mettre des jauges à la démocratie, mais en fait, il faut mettre des jauges aussi pour l'économie. Parce que moi, ce que je constate, c'est que les salons et les foires, il n'y a pas de jauge. Pourquoi les salons et les foires, les salons sont en intérieur, c'est des milliers de personnes. Enfin, si vous allez au salon de l'agriculture, et je suis bien content que le salon de l'agriculture ait lieu cette année, mais clairement, c'est des risques aussi pour la santé. Pourquoi il y aurait des risques dans des meetings politiques ? Pourquoi il y aurait des risques dans des événements sportifs ? Je rappelle que les matchs de foot, de rugby sont en extérieur.
Il n'y a pas de jauge non plus pour vous, en fait. Il n'y en a pas, on le sait très bien. Et d'ailleurs, et moi, je suis vraiment pour la démocratie et pour la campagne de tout le monde. Il n'y a pas de jauge pour le moment. Ce qu'on vous dit, c'est que certains candidats ont décidé en responsabilité, alors que le Conseil constitutionnel ne leur demande pas, de mettre des jauges. Vous n'en avez pas.
Ce sera décidé lundi.
Et vous décidez d'aller au-delà de ce qui est... Parce que votre liberté, c'est de faire... Vous pouvez faire des meetings autant que vous voulez. Autant que... Voilà. Mais du coup, moi, je vous pose cette question-là. Pourquoi est-ce que vous inventez pas aussi en parallèle une autre façon de faire campagne en distanciel ou autre pour pour tenir compte de cette épidémie.
Comment peut-on avoir la prétention d'être candidat?
Mais non, mais
je parle pour tout le monde.
Répondez, monsieur Audoul, en dessous de Kauter.
Oui, ça fait 2 ans qu'on s'adapte. Ça fait 2 ans qu'on organise des visioconférences, ça fait 2 ans qu'on fait des réunions en distanciel, ça fait 2 ans qu'on fait des assemblées en distanciel. Moi, je le fais au conseil régional, donc on s'est totalement adapté et on s'est finalement fondu aussi au contexte. Mais j'ai vu lors de la campagne régionale qu'il y a, il y a besoin de présence, il y a besoin de terrain. Le distanciel, c'est bien gentil, ça peut évidemment pallier, ça peut compenser, mais il y a besoin d'aller au-devant des gens. J'ai vu Marine Le Pen quand elle était sur une foire en Haute-Saône à Vesoul, j'ai vu le besoin des gens de l'écouter, de la toucher, de tout simplement de comprendre et d'attendre ses propositions. Une campagne présidentielle, c'est la rencontre c'est d'un homme contact. Ou d'une femme avec le peuple français. C'est pas la rencontre entre un ordinateur et une caméra. Donc, clairement, il faut que cette campagne, elle ait lieu dans les conditions, évidemment, sanitaires optimales, avec des gestes barrières, avec toute la prudence nécessaire. Mais moi, je regrette qu'à 3 mois de l'élection présidentielle, on en soit à parler de savoir si on va organiser des meetings ou pas. Voilà. Sachant qu'encore une fois, les chiffres de l'épidémie ne sont pas inquiétants d'un point de vue de la mortalité et d'un point de vue des hospitalisations.
Ce sera à voir au fil des semaines, effectivement, avec le degré des contaminations. Kauter, restez là, il nous reste 3 minutes.
Moi, je suis pour le débat avant tout des idées et pas pour aller toucher une pop star comme si on était avec Michael Jackson de son vivant, paix à son âme, etc. À un moment donné, toucher Marine Le Pen ou Macron, c'est pas ça qui va nous faire voter pour eux ou pas. Donc, à un moment donné, le débat d'idées peut s'organiser ailleurs, comme l'a dit, il faut être inventif. Dans tous les domaines, le docteur Chiche l'a proposé pour la médecine. Il faut aussi être inventif dans le débat d'idées. Et je ne comprends pas comment on peut avoir la prétention de gouverner un pays quand on se met, même si la Constitution le prévoit, quand on se met au-dessus du citoyen lambda qu'on veut représenter. Pas accès à la culture, on brime la culture, on brime les concerts, on n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de chanter, on n'a pas le droit de réveillonner, on n'a pas le droit de faire la fête dans la rue, mais on a le droit de faire des meetings à 5000 parce que la Constitution le prévoit. On est dans un état d'urgence depuis 2 ans. Les Français ont été hyper disciplinés, moi je trouve, parce qu'on aurait pu, on aurait pu à un moment donné être.
Donc la politique ne doit pas être au-dessus de la vie quotidienne des Français, quoi.
Exactement. Ils doivent donner l'exemple. S'ils veulent à un moment donné être nos représentants, bon, en ce qui me concerne, ce n'est pas le Rassemblement national, mais à un moment donné, ils doivent donner l'exemple, et vous devez donner l'exemple, vous comme tous ceux qui se disent démocratiques et en tout cas qui se présentent à cette élection.
Alors, j'ai relevé évidemment les contradictions et les incohérences de certaines mesures et je comprends l'exaspération de certains Français, je comprends l'exaspération des artistes notamment. Pourquoi les meetings, pourquoi pas les concerts? Oui, il y a une incohérence à ce niveau-là. Pour autant, on ne peut pas mettre au même niveau le spectacle, les loisirs et la démocratie. Je suis désolé, ce n'est pas la même chose parce que les meetings politiques vont décider de l'avenir du pays, vont décider des politiques qui vont être menées pendant 5 ans, vont décider de savoir si on s'en sort ou pas.
La culture, des multiples plus crises de personnes qui frappent que la politique,
le peuple français. Alors, donc clairement, il n'y a pas à mettre sur un même niveau et surtout, pas de jauge à la démocratie. On a déjà vécu ça au municipal. De grâce, finissons-en.
Pas de jauge
Julien
tout court.
À l'instant, je voulais vous faire écouter un petit extrait d'un clip. De vœux.
D'Emmanuel Macron.
Non, je ne l'ai pas encore. D'Éric Zemmour, 30 secondes.
Chers compatriotes, je ne veux pas vous parler la langue de bois habituelle des vœux du nouvel an. L'année qui s'annonce sera une année très importante, de celle qui reste gravée à tout jamais dans l'histoire de France. 2022 sera l'année de la dernière chance. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous seuls pouvons en décider. J'ai besoin de vous, de votre optimisme, de votre élan, de votre pouvoir de conviction. Le 24 avril 2022, au soir, nous serons de nouveau ce pays à nul autre pareil qui s'enorgueillit de n'appartenir à personne, de ne se soumettre à personne, de n'obéir qu'à son propre destin.
Là, vous ne l'avez pas vu venir, hein, Éric Zemmour. C'est lui votre problème pour 2022, en fait.
Non, clairement pas. Éric Zemmour a eu le mérite de recentrer la campagne et le projet de Marine Le Pen, ce qui est une très bonne chose. Notre seul adversaire, c'est l'abstention, c'est la résignation. Et je vois beaucoup de Français sur le terrain qui ne croient plus à la politique, qui n'ont plus envie d'aller voter. Et je leur dis qu'ils ont la possibilité, entre leurs mains, de changer les choses. Il n'y a pas de résignation à avoir. Encore une fois, tout ce qui nous a été imposé depuis près de 5 ans, en matière de restrictions, en matière de privation de liberté, en matière de saccage social, tout ça peut changer. Et moi, j'alerte les Français sur un point. On a vu avec quelle facilité ce pouvoir qui était prétendu progressiste et libéral a touché nos libertés individuelles et collectives. On a vu ces restrictions, on voit clairement une évolution vers des dérives très inquiétantes quand j'entends Olivier Véran notamment parler de prise en charge des soins des non-vaccinés, etc. On pourrait se poser la question, ces dérives sont très inquiétantes. Moi je dis, si Emmanuel Macron est réélu pour 5 ans, alors qu'il n'aura pas, encore une fois, la nécessité d'être réélu, ce sera son dernier mandat, ce sera le saccage social. Ce sera le saccage, la fracturation. Donc je leur dis, pour changer et éviter ça, il faut évidemment voter pour l'alternance. Et l'alternance, c'est Marine Le Pen. Eh
ben écoutez, effectivement, excusez-moi, je suis obligé de dire que...
Non.
Voilà.
Ouais. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini.
Vous faites partie des raisons de l'abstention, monsieur.
C'est fini. Ah. C'est fini. Merci Julien Audoul d'avoir conclu l'année 2021 avec nous. Bonne année, ma chère Stéa Kama, un peu en avance. Bonne année.
Bonne année.
Bonne santé, Stella et Kauter. Bonne année, bon réveillon.
Bon réveillon à tous, belle année à tous. Restons positifs et continuons à vivre.